CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag, le dernier de la semaine, où on va parler bien évidemment culture dans quelques instants, même dans tout ce numéro d'ailleurs, entre parenthèses. Premièrement, avec Véronique Do, la directrice du théâtre de l'usine. Qu'en est-il de ce théâtre qui a été obligé d'annuler donc toutes ses programmations, qui n'a pour l'instant aucune visibilité sur les ouvertures essentielles et prochaines, peut-être, que sais-je. On va essayer de comprendre ça avec donc la directrice du théâtre de l'usine, situé dans le nord du Lot. Mais tout de suite, on commence avec nos libraires de chez Calligram, librairie à Cahors, et qui parle au nom des 7 libraires indépendants du Lot. Ce sont les idées lectures de ce week-end. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est votre mag. Soyez les bienvenus donc dans le mag avec cette semaine, nos libraires et leurs idées lectures, et Nathalie, la bosse. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, 2 livres aujourd'hui, on commence par lequel alors ?
Alors, par un premier bouquin. Qui est de Virginie Barreteau et qui s'appelle « Ceux des marées », qui donc sort cette semaine et qui est aux éditions Incultes.
Mais je crois que la dernière fois, tu m'en avais parlé aussi des éditions Incultes.
Ah, j'aime bien, c'est un peu mon chouchou, les éditions Incultes. J'aime bien le nom aussi.
Oui, aussi, oui.
Voilà, donc, alors, en fait, ça se passe dans les années 60, dans un pays de marée, de brouillard, de silence feutré, un pays de chaleur assez insupportable l'été, envahi par l'eau chaque hiver, où en fait les fermes isolées vivent un peu en autarcie.
On n'est pas sur Mars déjà donc.
On n'est pas sur Mars, on est dans un marais, comme le marais Poitevin, mais ce n'est pas forcément indiqué. C'est un pays où les hommes sont relativement taiseux, conscients de leur misère, parfois honteux, mais qui, pour autant, ne sont pas du tout attirés par la ville, qu'ils restent là où ils sont, peut-être par peur. Alors, on va découvrir, en fait, ce pays à travers les yeux du docteur, qui, sur ce que l'on appelle une plate, c'est-à-dire une barque, visite maison par maison tous ses patients. C'est le docteur des petits bobos, c'est le docteur du cœur, c'est le docteur de la douleur. Et c'est un docteur qui est un peu aussi atypique parce qu'il aime photographier ses patients, mais il les photographie dans des mises en scène souvent alambiquées, comme s'il voulait, en tout cas c'est ce qu'il souhaite, aller capturer par l'instant très. Par le flash de la photo, comme s'il voulait aller capturer ce que les gens veulent cacher ou ce que l'on ne voit pas. Comme il est dans un milieu de miséreux, très souvent, ils n'ont pas la possibilité de payer la consultation. Du coup, en échange, il demande, il impose presque, parce que les miséreux n'osent pas refuser ces prises de vue un peu anachroniques. C'est un roman. Alors déjà, c'est un premier roman réussi. Les premiers romans, c'est pas évident.
Ouais.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour nous faire vraiment rentrer dans l'ambiance de ce pays des années 60, elle va utiliser leur langue, un peu leur patois. Donc il y a un phrasé qui est très particulier, qui est très beau. Alors c'est vrai que c'est un roman un peu lent, très mélancolique, sur la nature humaine, sur ce docteur, son rapport au monde, aux autres. Pour moi, c'est une vraie réussite et c'est vrai qu'un culte fait partie de mes petits... Chouchou dans les maisons d'édition. C'est une maison d'édition un peu particulière, puisqu'au départ, c'est un collectif d'auteurs qui a créé cette maison d'édition, qui a été rachetée il y a quelque temps par Actes Sud, mais qui garde cette ligne éditoriale. Donc,
Ça se passe dans quelle période ?
Années 60.
Donc en gros, si je comprends bien, c'était quasiment le premier des premiers réseaux sociaux, quoi, la manière dont faisait le médecin.
Ah, c'est-à-dire aller comme ça de...
Oui. Eh oui, quand on y pense.
Ouais. Il ne va pas forcément les gens en plus les voir parce qu'ils sont malades. Hein. C'est-à-dire qu'il fait vraiment ses tournées, quoi.
Ouais.
Il fait ses tournées, un jour comme ça, par hasard, il va tomber sur une femme qui va accoucher 2 mois avant. Voilà. C'est aussi des histoires de solitude.
C'est touchant ?
C'est super beau. C'est très touchant, c'est magnifique, la fin est splendide.
C'est pas du voyeurisme, c'est pas du misérabilisme, non. C'est la vie, quoi, tout simplement.
Pas du tout, il y a beaucoup de tendresse, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de condescendance. Donc il y a vraiment un très très beau regard sur ce pays-là et ces gens-là. Moi, j'aime bien la littérature quand elle parle aussi de ce que l'on appelle aujourd'hui les oubliés ou les invisibles de la République.
Ça s'appelle Ceux des marais et c'est donc Virginie Barreto aux éditions Inculte. Voilà pour le premier choix de Nathalie. Deuxième choix, alors on en a entendu beaucoup parler de
Eh
ce
oui.
livre, Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste.
Oui, alors que
C'est un
je...
document.
C'est un document, voilà, on en a beaucoup entendu parler. Tu le sais, on essaye toujours avec Cyril et Sandrine de présenter des bouquins dont on n'entend pas forcément parler.
Bah là, c'est loupé, là.
Voilà, c'est loupé. J'essaye aussi le plus possible de faire découvrir des premiers romans, parce que je trouve que c'est voilà, un des rôles importants du libraire indépendant. Alors oui, c'est loupé. Florence Aubenas, on en entend beaucoup parler. Alors pourquoi j'en parle? Bon, parce que d'abord, c'est ma chouchou.
Ah ouais.
Je la vénère,
Ah
j'adorerais
ouais.
la rencontrer, j'adore Florence Aubenas. Elle avait déjà écrit deux ou trois bouquins, entre autres Quai de Ouistreham et La Méprise. Quai de Ouistreham, c'était vraiment une immersion dans le milieu des femmes de ménage, des grands cargos, où elle s'était inventée une nouvelle vie hein, pour accéder et faire un roman magnifique, un récit magnifique.
Il faut rappeler qu'elle est journaliste, hein.
Alors, voilà, il faut rappeler qu'elle est journaliste, elle a été longtemps journaliste à Libération, elle est désormais au Monde. Si je souhaite aussi en parler, c'est parce qu'en fait, pour moi, Aubenas, c'est aussi un très bon écrivain. C'est un magnifique écrivain. Tous les journalistes, loin de là, n'ont pas une plume extraordinaire quand ils passent à ce qu'on appelle le long cours. C'est-à-dire que quand ils vont avoir un bouquin à écrire, quelquefois, le style n'est pas là. Aubenas,
Et
elle
c'est pas
a
le
un
cas.
style absolument magnifique. Ça peut très bien se lire comme un roman policier. Alors, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un fait divers, même si c'est finalement le terme est assez sordide, parce que c'est pas si divers que ça. C'est une postière qui est assassinée. Un truc assez classique au départ, hein.
Oui.
On est dans un petit village frontalier à côté de la Suisse, assez paumé, 2-3 000 habitants. On trouve la postière poignardée un matin.
Sauf que dans ce village, il y habite une personne que l'on connaît un peu parce qu'il a fait du cinéma.
Voilà. Et sauf qu'aussi, ça se passe au mois d'août, que du coup, il n'y a pas grand-chose dans l'actualité.
Ouais. Ah oui.
Que le monde du coup envoie Aubenas qui n'y serait peut-être pas allé si c'était pas au mois d'août, et que dans ce village il y a effectivement
Gérald Thomasin.
Gérald Thomassin.
Que l'on a vu en 90, je crois, dans le film Le Petit Criminel avec Gérard avec Anconina. Richard
Bravo.
Anconina.
Ah, je
Oui, je
vois
l'ai
que
vu le film, on m'avait amené à l'époque.
Ouais, mais c'est un super.
C'était un très beau film,
C'est un super
touchant.
film.
Et il était un très bon acteur
Et
aussi.
c'était son premier film.
Exact.
C'est un casting qui a été fait dans les foyers, hein, parce
Ouais.
que Gérald Thomassin, c'est un cabossé de la vie. Bon, pourquoi il est là? Il est là pour se mettre au vert, parce qu'en fait, à chaque fois qu'un film est terminé, il disparaît. Voilà. Et puis, il réapparaît quand on lui téléphone et qu'on a un film à lui proposer. Il est là, il est quoi? C'est un marginal, hein. Bon, c'est une enquête qui va être longue, qui va s'arrêter, recommencer, avoir des rebondissements, aller en sens inverse. Thomasin, une première fois, est soupçonné. Finalement, il n'y a aucune preuve. 2 ans après, on le met en prison parce qu'on estime que c'est lui. Enfin, c'est compliqué. C'est une enquête compliquée. Il n'y
Qu'elle
a
a suivi d'ailleurs
pas de preuve. Elle a
depuis le
suivi pendant,
début.
elle a suivi depuis le début. Elle l'a suivi pendant 7 ans. Elle a mis énormément de temps à sortir ce bouquin pour la bonne raison qu'elle a été obligée de le réécrire, puisque finalement, dernière nouvelle, c'est pas Thomasin. L'ADN a confondu une autre personne.
Mais il a disparu.
Il a disparu dans des conditions absolument extraordinaires, extraordinaires. C'est-à-dire qu'au moment où il doit se rendre chez le juge d'instruction et qu'enfin on est persuadé lui aussi qu'il va être innocenté, il prend un train, un changement, il descend du train et il ne prend pas le train suivant. Bon, on apprendra après que parce qu'il avait plus d'argent, qu'il s'est fait arrêter par les contrôleurs. Donc l'histoire aurait pu être différente. Hein, si, Mais en fait, bon, elle part d'un fait divers, c'est une évidence. Elle va suivre l'enquête. Mais surtout, Aubenas, elle a vraiment un don extraordinaire d'être le témoin. Mais un peu finalement comme Barreto, hein, les deux bouquins se rejoignent, de ce qu'on peut appeler la France banale, la France ordinaire, la France des petites gens. C'est un super bouquin
Et
à lire.
ben voilà, Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste, et ça, par contre, c'est aux éditions de
De
l'Olivier.
l'Olivier. Voilà. Et elle a aussi écrit vraiment à lire La Méprise et le Quai de Ouistreham, qui étaient aussi aux éditions de l'Olivier, et qui sont maintenant en poche.
Bon, et ben des livres en tout cas que vous allez
incontournables.
Que vous allez retrouver chez vos libraires indépendants du Lot. Je
Exactement.
Rappelle qu'ils sont 7 un peu partout. Et donc, il n'y a pas d'excuse pour le trouver.
Absolument. Et on est 2 à Cahors. Il y a aussi la Fourmi Rouge. Et à chaque fois que vous allez quelque part, vous allez avoir des concerts et confrères. N'hésitez pas à pousser la porte.
Exactement. Parce que la dernière fois, j'ai écouté les conseils de Sandrine avec un de ses livres et je me suis régalé. C'est la première fois que je lisais un roman en 5 jours. Donc, d'habitude, je mets un peu plus de temps. Mais là, j'arrivais pas même plus à m'endormir. Il fallait que j'étais pris dedans. Enfin, en tout cas, voilà à quoi sert cette chronique. On espère que vous allez pouvoir suivre les conseils. Merci, Nathalie.
De rien.
À la prochaine.
Merci à toi. Au revoir.
Et dans quelques instants, on continue à parler culture, mais cette fois avec le théâtre notamment de l'usine qui est à s'insérer dans le nord du Lot, qui est fermé comme tous les théâtres, d'ailleurs entre parenthèses, et les salles de cinéma et les salles de spectacle. Comment va le moral là-bas et comment on s'adapte? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir dans quelques instants avec la directrice Véronique Do. Autant vous dire qu'ils essayent quand même de garder le moral. Voici Francis Cabrel, Dur comme fer dans le MAG.
L'homme qui parlait disait « Je viens pour vous tendre ». J'étais déjà tendu, j'allais pas répondre. Tout ce qu'il nous promet depuis la tribune, on attendra que ça tombe de la lune. Il est soulevé par la grâce, il dit qu'il va changer nos vies. Sous les dorures des palaces, on a juste peur qu'il oublie. L'homme qui parlait pensait, je vais les sécher. On était déjà sec, on n'a pas bronché. Quand tout est déjà noir, y a plus rien à craindre. Chez nous, y a que l'espoir qui reste à éteindre. Il a plein d'autres choses à faire, y a tellement de Miss Météo. S'il pense à nous entre deux verres, ce sera aux horaires bureau. C'est clair comme de l'eau, il le jure, dur comme fer. Partager le gros lot, ça il en fait son affaire. Ce sera l'Eldorado, il a les 6 bons numéros. Le complémentaire. L'homme qui parlait disait, je ne pense qu'à vous, je ne pense qu'à vous plus, mais je l'avoue. Le Père Noël, Jésus, toutes ces histoires, vous y avez cru, vous pouvez bien me croire. D'un coup d'œil à sa secrétaire, il a demandé de l'écho le même que pour Dieu le Père. Ce gars-là connaît son boulot. C'est clair comme de l'eau, il le jure, dur comme fer. Partager le gros lot, ça il en fait son affaire. Ce sera l'Eldorado, il a les 6 bons numéros. Le complémentaire. Il le jure dur comme fer. Ce sera l'Eldorado. Il a les 6 bons numéros. Il le jure dur comme fer. De savoir se perdre dans les coups.
CFM, CFM Cahors, CFM Cahors, le MAG.
Et de retour dans votre mag où nous nous intéressons au milieu culturel, nous avons régulièrement parlé ici de la situation due à la crise sanitaire, évidemment, tout le monde l'a bien compris. Le théâtre de l'Usine, situé à Saint-Céré dans le nord du Lot, a décidé d'annuler sa programmation purement et simplement. Y a-t-il des reprogrammations ? Pas évident à faire. En tout cas, nous allons le savoir avec notre invitée Véronique Dau, qui est la directrice justement du théâtre de l'Usine à Saint-Céré. Bonjour Véronique Dau.
Bonjour.
Directrice,
bonjour à toutes.
Directrice du théâtre de l'Usine. C'est la mort dans l'âme que vous avez décidé il y a quelques semaines de cela, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, entre parenthèses, de dire ben, finalement notre programmation, elle est annulée. Alors comme j'aime demander à tous les acteurs du secteur culturel, comment est le moral ?
On essaye de le garder au beau fixe, mais de se projeter dans l'avenir. Mais c'est pas facile, hein. Je vous avoue que en ce moment, nous sommes contraints, nous, d'annuler la saison depuis novembre. Mois par mois, on a fortement espéré ouvrir pour le 15 décembre. C'était vraiment, s'en faisait une grande joie. On avait remanié nos programmes sur cette dernière semaine de décembre. Et puis, tout est tombé à l'eau encore une fois. Et depuis, nous attendons un peu désespérément une date de réouverture et nous annulons les spectacles mois par mois. On espère encore réouvrir début avril, mais plus les jours passent et plus je pense que c'est encore une date qui sera remise à plus tard.
Est-ce que vous avez des échos, des représentants du secteur qui ont été voir la ministre ? Alors évidemment, on l'a entendu donner des nouvelles consignes pour, par exemple, que les festivals aient lieu cet été. Mais au point de vue des théâtres, est-ce qu'on vous a donné une visibilité à terme ?
Oui, ben on a des nouvelles, hein, puisque on a l'information circule dans la profession. On a des représentants effectivement syndicaux qui discutent avec le ministère, avec les ministères. Donc, on a des nouvelles, mais qui sont pour l'instant très très parcellaires et qui ne nous permettent pas d'envisager une réouverture rapidement.
Pas de date, c'est-à-dire que même pour cet été, vous savez pas en fait.
Non, on sait qu'on va pouvoir faire, on sait que les festivals pourront avoir lieu, mais on ne sait pas dans quelles conditions. On ne sait pas quelles seront les mesures sanitaires et notamment les questions de distanciation des spectateurs, qui est une question importante pour nous. Alors c'est vrai que les problématiques sont différentes d'écosystèmes, par exemple, hein, puisque nous, on n'est pas du tout sur du debout, on est sur de la scie. Mais de la scie en intérieur, avec quelle distanciation ? Est-ce que de la scie en extérieur, il va falloir une distanciation ? Tout ça, c'est des choses qu'on ignore pour l'instant.
Est-ce que vous comprenez cette situation et ces décisions qui sont prises ?
On comprend que personne n'a la solution miracle par rapport à cette crise sanitaire. Maintenant, on aimerait bien pouvoir envisager plus sérieusement des possibilités de travail, parce que là, c'est quand même une situation qui nous met en grande, grande difficulté. Et on ne comprend pas, enfin moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi depuis cet automne, les supermarchés, par exemple, sont ouverts sans contrôle de jauge. On a vu au moment des fêtes le monde qu'il pouvait y avoir, et nous qui respectons tous les protocoles, nous ne pouvons pas ouvrir. Voilà, il y a une certaine incompréhension à ce niveau-là. Oui.
Vous pensez subir une injustice alors ?
On pense subir des choix politiques, oui, ça, sans aucun doute, mais
Il y a certaines personnes qui font soit des concerts en réalité virtuelle, d'autres qui finalement, puisqu'ils ne peuvent pas présenter leur pièce de théâtre, le tournent dans un lieu, un vrai lieu, pour être diffusé en streaming. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose de plus compliqué de se réinventer pour le secteur culturel ?
C'est, ce qui est compliqué, c'est que quand on parle de secteur culturel, il faut préciser, nous on parle de spectacle vivant. Donc la caractéristique première du spectacle vivant, c'est la rencontre et c'est l'émotion en direct entre des artistes sur un plateau, quelle que soit la discipline, et un public présent dans sa chair, dans ses émotions, dans son cœur, dans sa tête, et que le partage des émotions avec un écran d'ordinateur, c'est pas du tout la même chose. Donc je crois que la rencontre, c'est quelque chose qui ne peut pas se réinventer. On peut réinventer des formes artistiques, mais comment réinventer la rencontre de deux êtres, l'artiste et le spectateur? C'est forcément un moment de partage en direct. Et à partir du moment où on nous enlève cette possibilité, effectivement, c'est compliqué. Alors après, on a, l'été dernier, nous avons réinventer un festival, l'impromptu festival, qui a pu rassembler quand même plus de 6000 spectateurs, parce que nous avons choisi des lieux en extérieur, des petits formats artistiques, enfin voilà, tout un certain nombre de contraintes liées à la crise sanitaire. Donc on a pu réinventer un événement, mais réinventer la rencontre sans la rencontre, c'est quelque chose qui est très compliqué. Oui.
Ça ne serait plus du théâtre, du spectacle vivant dans ce cas-là, alors, si je comprends bien.
Pour moi, c'est plus du spectacle vivant. Et on le voit bien, même chez les adolescents, les jeunes, ils finissent par regarder 1, 2, 3 concerts en streaming, puis au bout d'un moment, toutes les études montrent qu'ils ne regardent plus de concerts, parce qu'on n'a pas la chaleur, on n'a pas la magie, ça n'est plus du concert. Voilà, c'est autre chose.
Au théâtre de l'usine, Véronique Do, quelles sont les conséquences économiques depuis cette crise sanitaire?
La saison est quasiment morte. Hein. On est fermé depuis fin octobre. Je ne sais pas si on pourra ouvrir en avril, en mai. Au jour d'aujourd'hui, en tout état de cause, je travaille à renforcer la fin de saison que jusqu'à présent... était pour nous un moment un peu d'activité plus réduite, consacrée à des résidences, consacrée à des spectacles amateurs, d'écoles, d'ateliers, etc. Donc cette année, on va essayer de renouveler la programmation jusqu'à l'été. Et puis, on travaille actuellement sur... la programmation des festivals avec une programmation, voilà, je dirais, dans un format plein, et puis des plans B, des plans C, des plans D, voilà, pour arriver à sortir une programmation cet été, quoi qu'il arrive.
On a bien compris, donc tricoter, détricoter, retricoter, redétricoter pour retricoter, c'est votre quotidien en ce moment. Merci beaucoup.
Depuis presque un an.
Et depuis presque un an, effectivement, hélas, ouais. Malheureusement. Donc vivement l'ouverture, ouais. et qu'on en finisse vivement. Et qu'on puisse venir vous rejoindre au Théâtre de l'Usine. Merci beaucoup, Véronique Do.
Merci à vous, à très bientôt, j'espère. Au revoir.
À noter sur CFM Le Mag qu'il y a ce week-end et jusque dimanche d'ailleurs, si pour les magasins qui sont ouverts ce dimanche, la collecte, grande collecte nationale des Restos du Cœur. Donc n'hésitez pas, faites un petit geste quand vous faites vos achats. Il y a des gens qui vous attendent à la sortie. Prenez un ou deux denrées non périssables qui seront redistribuées au sein des Restos du Cœur du Lot, bien évidemment, mais aussi c'est une opération nationale donc dans toute la France. Mais si vous achetez dans le Lot, ça sera pour les Restos du Cœur du Lot. Et croyez-moi, en ce moment, il y en a besoin. Donc, bien sûr, on compte sur vous. Ça commence aujourd'hui. Ça se termine dimanche midi avec la fermeture des magasins. Et on espère que vous soyez nombreux, que vous seriez nombreux à pouvoir donner et participer. D'autant plus qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, il y a des personnes qui se retrouvent sans rien. Et c'est pas évident. C'est même presque humiliant pour beaucoup d'aller chercher à manger. Et ils sont obligés. Voilà, on compte sur vous en tout cas. C'est la fin de ce magazine. Rediffusion tout à l'heure à 17h et puis à 21h30. Vous restez avec nous, bien entendu. On reste ensemble, le journal, dans quelques instants.